Bonjour, c'est David de Nantes. Eh bien, à Nantes, on marche sur la tête au carré. On sort tout juste de la COP26. Et que fait-on à Nantes? Eh bien, les bistrotiers, les restaurateurs chauffent les trottoirs. Donc, Madame Johanna Roland, vous qui soutenez une candidate écolo, s'il vous plaît, bougez-vous. Merci.
Bonjour, Gilbert. Orléans, dites, il y a gaz naturel et gaz naturel. Il y a le gaz naturel fossile, qui a exactement le même effet que le pétrole, c'est-à-dire ressortir, relarguer du CO2 qui a été stocké pendant des milliers d'années. Et puis, il y a le gaz naturel biologique, c'est-à-dire celui qui est fabriqué en temps réel par la méthanisation. La méthanisation, s'il n'y a pas de fuite de méthane, si elle est conduite avec des déchets végétaux et non pas des cultures, ça peut être une solution, je pense. À bientôt, au revoir.
Bonjour Thierry, Sud-Bretagne. Eh bien, tous les auditeurs de La Terre au Carré ont très certainement entendu parler de Morgane Large, cette journaliste bretonne menacée de mort parce qu'elle enquêtait sur le monde agricole. Et je pense aussi que tout le monde aura entendu parler du plan Ecophyto qui avait été mis en place en 2007 par Jean-Louis Borloo. Eh bien, aujourd'hui, le constat est pitoyable. 4 milliards d'euros qui ont été dilapidés par le monde agricole, les lobbies des pesticides. Et puis, finalement, les parasites sont toujours là, les nuisibles sont toujours là, le chancre est toujours là. Lorsque j'utilise ces adjectifs, je veux bien sûr parler de tous ces profiteurs, de tous ces agriculteurs, de toute cette mafia pourrie qui existe, notamment en Bretagne, hein, il faut le dire, il faut le souligner, notamment en Bretagne, mais en fait partout en France. Donc c'est hyper grave ce constat, cet échec éco-phyto là. Allez, salut.
Bonjour Mathieu Vidard et tout le monde. Gisèle de Montargis, je vous téléphonais parce que j'aurais aimé avoir une idée de ce que provoquent dans l'atmosphère les tornades qui ont eu lieu aux États-Unis, qui sont des vrais aspirateurs de plein de choses et qui répandent tout ça dans l'atmosphère. Les pesticides, le gaz, les choses comme ça, tous les produits pétroliers ou les produits industriels qu'il y avait, dont les silos ont été éventrés, etc., etc. Comme nous sommes, nous, en Europe et puis en Afrique aussi, dans le sens du vent dominant, ça vient de l'ouest chez nous, je voulais savoir dans combien de temps on pourrait bénéficier des retombées de toutes ces petites poussières. Merci.
Le répondeur de La Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
La semaine prochaine décollera depuis la base de Kourou en Guyane le plus grand, le plus puissant télescope jamais lancé dans l'espace. Son nom, James Webb, en hommage au deuxième administrateur de la NASA, qui a joué un rôle essentiel dans la réussite du premier vol habité du programme Apollo. Il aura fallu 30 ans de développement, près de 10 milliards de dollars d'investissement pour que ce télescope spatial soit enfin prêt à être lancé. Et donc, à quelques jours du départ, la pression monte autour de ce petit bijou technologique, avec une mission qui s'annonce passionnante, mais également très complexe. L'enjeu de James Webb étant de répondre aux questions les plus essentielles de l'univers et de faire autant que possible des découvertes révolutionnaires dans tous les domaines de l'astronomie. C'est donc le thème de l'émission cet après-midi, avec pour en parler bien nos invités Olivier Bernet et Nicole Nesvadba. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Olivier Bernet, vous êtes avec nous en studio, vous êtes astrophysicien au CNRS, au sein de l'Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, et vous êtes responsable d'un des programmes d'observation sur le télescope James Webb. Et puis Nicole Nesvadba, vous êtes en duplex des studios de France Bleu Azur à Nice, vous êtes astrophysicienne, directrice de recherche CNRS au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, et vous êtes responsable de 4 programmes d'observation autour des trous noirs supermassifs et de leurs galaxies. On va donc se retrouver dans un instant pour parler de ce super télescope spatial, et vous allez répondre aux messages et aux questions des auditrices et des auditeurs qui arrivent sur la page de La Terre au Carré, sur les réseaux sociaux et bien sûr sur l'appli France Inter avec vos messages vocaux. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
À 14h30, on passe au vert.
Avec un père de famille en grève pour le climat en Suisse, mais en grève de la faim qui vient de se terminer. C'était jeudi dernier, je vais tout vous raconter.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier avec Laurent Baudouin à la technique.
Mathieu Vidard, La Terre au Carré. France Inter. Lancé par une fusée Ariane 5 depuis le centre spatial de Kourou en Guyane, le télescope spatial James Webb a été conçu pour répondre aux grandes questions de l'astrophysique, comme la formation dans l'univers des premières galaxies et de leurs premières étoiles, des planètes et des exoplanètes, ou la composition des atmosphères de planètes extrasolaires. Au cours du voyage, le déploiement du miroir primaire de 6,60 m est une opération délicate et inédite. Au bout d'une croisière de 30 jours, Webb atteint son orbite autour du point de Lagrange L2, à 1 500 000 km de la Terre. Un environnement stable et froid, des conditions nécessaires pour observer le rayonnement infrarouge avec une sensibilité sans précédent.
Voilà, le décor est planté, extrait d'une vidéo du CNRS, donc c'est le 22 décembre, la semaine prochaine, Kourou en Guyane, et ce petit bijou de technologie, James Webb, qui va donc s'envoler, et qui promet en tout cas des découvertes inédites autour de l'univers. On en parle donc avec vous, Olivier Bernet et Nicole Nesdadba. Quel est votre état d'esprit, Olivier Bernet, quelques jours du départ? Racontez-nous ce qui se passe dans la tête d'un astrophysicien comme vous, qui a un instrument directement sur le télescope qui va s'envoler.
On est à la fois très impatients, ça fait longtemps qu'on attend cette mission, et puis aussi très contents de voir enfin que ce projet hors norme, par tout un tas d'aspects sur lesquels on reviendra certainement, est enfin prêt. Et c'est presque, on a presque du mal à y croire, pour être tout à fait sincère. Après toutes ces années d'attente, c'est quelque chose qui nous paraît, pour un certain nombre de collègues, assez irréel.
Oui, parce que c'est beaucoup de boulot, et comme vous le disiez, c'est beaucoup d'attente, donc de patience. Il faut être patient dans votre métier d'astrophysicien. Pour vous, Nicole Nesvadba, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'excitation à quelques jours du décollage.
Oui, certainement, et je dirais aussi il y a énormément d'espoir, parce qu'il y a tout le potentiel scientifique qui nous attend maintenant, qu'on va finalement pouvoir observer l'univers vraiment de cette nouvelle manière.
Oui.
Mais aussi espoir, bien sûr, vis-à-vis de tous les risques qui nous attendent encore avec le lancement et les premières étapes pour vraiment mettre en place cet observatoire qui est tout à fait exceptionnel.
Mm-hmm.
Mais je dirais que ça fait partie du jeu, donc il faut vivre avec, et je suis sûre, j'ai beaucoup d'espoir et beaucoup de confiance aussi aux ingénieurs que ça se passera bien.
Ouais. Olivier Bernet, il y a un moment critique vraiment avec le décollage, là, quelques jours. Vous scrutez la météo, vous me disiez tout à l'heure, voilà, je me renseigne quasiment jour par jour pour savoir quel temps il va faire le 22 décembre. Donc
oui.
C'est quoi, là, les nouvelles aujourd'hui?
Ben, on a eu la dernière visioconférence hier avec les collègues de la NASA, donc ils nous ont fait un briefing, on va dire, hein, sur le statut. Donc le placement du télescope sur la fusée Ariane 5, et puis donc les conditions météo à Kourou en Guyane, d'où sera lancé le satellite. Donc tout a l'air opérationnel et nominal. Donc c'est tout est en place pour le lancement, et donc c'est aussi le moment de rendre hommage aux équipes, hein, instrumentales, techniques, les ingénieurs, les techniciens qui ont travaillé pendant toutes ces années. Là, ça va être le moment aussi des scientifiques qui vont, des observateurs comme Nicole et moi, de prendre un peu le relais. Mais faut pas oublier que ces gens, ils ont travaillé, ces ingénieurs, ces techniciens, pendant des années et des années pour rendre cette mission possible.
Mais comment ça va se passer très concrètement, le décollage? Comment on envoie un télescope géant dans l'espace?
Dans la coiffe d'Ariane aussi. Hein,
et puis une fois que c'est là-haut, qu'est-ce qui se passe, quoi?
Oui, alors c'est ça qui est aussi extraordinaire avec cette mission et qui est unique, c'est que on voulait faire un télescope qui soit grand, qui fasse 6,5 mètres de diamètre. Or, une fusée Ariane, ça fait 5 mètres de diamètre, donc il n'y a pas besoin d'être un génie des mathématiques pour comprendre que ça ne rentre pas.
Ça rentre pas, ouais.
Et donc, il a fallu concevoir un miroir qui se replie, qu'on plie et qu'on met à l'intérieur de la fusée comme un origami, et qui ensuite se redéplie une fois qu'on arrive dans l'espace, au point de Lagrange, dont on a entendu quelques mots pendant
la présentation.
La présentation, ouais. Ouais, voilà.
Mais donc elle va le larguer, il va, si tout va bien, déplier ses
pétales.
Son miroir. Voilà. Et après, il fait quoi? Il est guidé comment? Il va vers où? Enfin.
Alors, il est en orbite. C'est une sorte de jeu de billard, si vous voulez, dans le système solaire. On l'envoie à un point qui se situe derrière la Lune, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, et qui est un endroit où la gravitation des astres du système solaire, en particulier le Soleil, la Terre et la Lune se compense. Et donc, on peut se mettre en orbite autour de ce point. Et donc, le télescope va rester là-bas, en orbite, autour de ce point qui est situé derrière la Lune. Et il va pouvoir donc observer le cosmos en étant protégé aussi. Hein. Là-bas, c'est un endroit où il y a peu de contamination par la lumière du Soleil et de la Terre, hein, qui est aussi une pollution quand on est trop proche de cet astre.
Nicole Nesvadba, avant de rentrer vraiment dans la science de l'observation de James Webb, là, encore quelques détails effectivement sur le voyage. Combien de temps il va mettre jusqu'à son arrivée au point de Lagrange, justement à 1,5 million de kilomètres depuis donc le décollage? Combien de temps il va falloir avant qu'il soit vraiment dans son poste d'observation?
Oui, cette toute première étape, alors, ça va prendre environ un mois.
Ouais.
Et après un mois, donc, il va être à sa position finale, en orbite autour de ce point qu'on appelle le point de Lagrange 2. Et c'est non assez technique, je l'avoue. Mais entre-temps, il y a tout un nombre d'étapes qui se passent encore. Donc d'abord, il y a le grand miroir qui va s'ouvrir, on espère. Il y aura aussi le bouclier contre la radiation solaire et aussi de la Terre, à ces longueurs d'onde-là, qui va aussi s'ouvrir pour permettre de bien isoler le télescope donc de la chaleur qui vient du Soleil et de la Terre. Et puis après, il faudra mettre en route les différents instruments. Donc il y a 4 instruments avec lesquels on va observer, et chaque instrument, il doit d'abord être testé, calibré. Il faut très bien comprendre comment ça fonctionne avant qu'on puisse observer des objets extraterrestres avec, pour bien pouvoir distinguer entre les signaux qu'on va recevoir des instruments eux-mêmes, et aussi pour isoler donc les signaux qu'on va observer des objets dans l'univers.
Olivier Bernet, ça va prendre plusieurs jours, justement, le dépliage de l'origami, hein.
Oui, c'est un dépliage qui dure environ 15 jours et c'est un dépliage qui est compliqué. Il y a 140 mécanismes. Moi, quand j'ai commencé ma carrière dans le spatial, enfin quand j'étais en cours, on nous disait, dans le spatial, il faut zéro mécanisme, c'est-à-dire zéro objet mobile, il ne faut pas que ça bouge une mission spatiale, le moins possible. Donc là, on a 140 mécanismes avec des câbles qui se tirent. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement sophistiqué, ce déploiement. Et donc, ça dure 2 semaines. Et donc, pendant ces 2 semaines, ça va être un petit peu 2 semaines de frayeur. On espère que tout va bien se passer. Chacune des étapes va se dérouler parfaitement jusqu'à ce que le télescope soit complètement déplié.
Il est prévu qu'il fonctionne pendant combien de temps? Alors, combien d'années, justement, d'exploration?
En principe, il doit fonctionner pendant 5 ans. C'est limité par le fait qu'il y a un peu de carburant à bord pour restabiliser, repointer le télescope. La radiation du Soleil pousse aussi le télescope un petit peu vers l'extérieur, et donc il faut se remettre sur une bonne orbite. Donc ça demande de consommer un petit peu de carburant. Et donc on est limité pour une durée, en principe, hein, la durée nominale c'est 5 ans, mais on espère qu'on pourra réussir à le faire fonctionner plus longtemps.
Comme Hubble d'ailleurs. Hein,
comme Hubble.
Qui a fonctionné beaucoup plus longtemps que prévu.
Voilà, on espère aussi.
Il y a plein d'espoir, parce que là l'enjeu il est très très important. Vous allez nous expliquer dans un instant pourquoi justement est-ce qu'on est vraiment face à un outil extraordinaire par rapport aussi à la connaissance qu'il va pouvoir nous apporter. Un petit mot sur le nom James Webb. Qui était ce monsieur? Et expliquez-nous un peu la polémique qu'il y a eu autour de ce nom aussi, parce qu'à un moment, il était question de le débaptiser.
Oui. Alors, James Webb, c'était un administrateur de la NASA qui a joué un rôle important dans les missions donc Apollo, qui sont les missions notamment lunaires. Et James Webb est une mission emblématique de la NASA, au même titre qu'Apollo. C'est la mission qui a coûté le plus cher depuis Apollo. Et donc, il y a eu une polémique autour du nom de James Webb, parce que il y a eu une époque au moment du McCarthyisme aux États-Unis qui s'appelle, où il y a eu une forme de d'épuration dans l'administration publique états-unienne qui a consisté à mettre à la porte un certain nombre de personnes de la communauté homosexuelle
LGBT.
Ouais. LGBT. Et donc il a été question de que James Webb ait participé à cette période.
Politique d'exclusion finalement.
Tout
de ces
à fait.
Personnes, ouais.
Voilà. Et donc il y a un certain nombre de personnes qui se sont posé la question de savoir s'il était judicieux de nommer le télescope après lui. Il y a des travaux d'historiens qui sont en cours, et la NASA a diligenté une enquête aussi dont on n'a pas encore les résultats à ma connaissance pour savoir si c'est d'un point de vue historique la réalité ou pas. Voilà. Mais ce que je peux dire, peut-être quand même un petit mot, c'est par rapport à ça, c'est que je trouve que c'est peut-être un peu dommage que l'opportunité n'ait pas été saisie de nommer cette mission après, par exemple, une femme scientifique comme Vera Rubin, par exemple, des personnes comme ça qui ont joué un grand rôle dans les questions scientifiques que James Webb va traiter. Ça aurait été chouette, je dirais.
Ouais. Mais il n'y a pas un télescope Vera Rubin qui est prévu ?
Alors si, il y a un télescope Vera Rubin qui n'est pas un télescope spatial de la NASA, mais c'est un exemple.
Il y a son nom qui sera donné quand même.
Hein. Voilà. Nicole Nesvadba, vous êtes d'accord ? Ça aurait été mieux un nom de grande femme scientifique, par exemple, comme le dit Olivier Bernet ?
Je trouve d'abord un nom d'un scientifique aurait été mieux que de lui donner un nom d'un administrateur. Ça fait un peu, ça ne fait pas rêver.
Ouais. Finalement. C'est vrai.
Cependant, pour sauver un tout petit peu la réputation de la NASA ici, la prochaine grande mission qui est maintenant prévue, qui va donc être un peu le successeur de Webb. Elle n'est pas encore conçue dans ses détails scientifiques, mais elle a déjà un nom. Et le nom, c'est Nancy Grace Roman. Donc, ça va être une femme. Cependant, de nouveau, c'était une administratrice.
Oh
c'est
là.
Pas une scientifique.
Ils sont barbants quand même à la NASA, non ?
Eh oui.
Il faut leur suggérer d'autres noms qui fassent un peu plus rêver les foules. En tout cas, ce télescope, James Webb, fait rêver quoi qu'il en soit. Il décollera James Webb. Peut-être qu'il changera de nom en cours de route, ça, l'histoire nous le dira. Et vous êtes nos invités cet après-midi pour en parler. On va parler de la science, justement, que va produire ce télescope. Easy on me. C'était Adèle sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
La base d'intégration lancement au centre spatial d'Arianespace à Kourou. Ce matin, les ingénieurs greffent le moteur principal du lanceur. Une étape décisive pour l'ESA et la NASA avant d'installer le futur télescope spatial tout en haut de la fusée.
C'est énorme. C'est quand même une décharge utile et plus importante qui va être embarquée sur Ariane 5. Même moi qui suis dans le milieu, j'ai les yeux écarquillés. Quand je vois ça, je me dis c'est extraordinaire.
Le satellite en question, le voilà. Installé depuis son arrivée le 12 octobre dernier dans une salle spécialement aménagée pour le protéger des poussières. Un beau bébé de la taille d'un petit avion de tourisme, pesant 6,2 tonnes, coûtant plus de 8 milliards d'euros, qui a commencé à voir le jour en 2008.
Voilà, Olivier Bernet et Nicolas Nesbadda sont avec nous pour en parler, puisque vous êtes intéressé, eh bien, au premier plan, hein, pour justement les résultats. Vous avez, Nicolas Nesbadda, des heures d'observation qui vous seront dédiées, c'est ça, sur le télescope?
Voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. On peut, dans notre cas, c'était un peu avant le lancement de l'observatoire. On peut proposer des projets de recherche qui vont ensuite être exécutés si on passe le concours, de quelque sorte. Donc, si les projets sont éligibles et suffisamment intéressants pour cela. Et donc, on avait pas mal de succès quand même.
Donc, ça veut dire que les places sont chères, j'imagine, Olivier Bernet, non? Pour arriver à avoir ces heures d'observation.
Oui, les places sont très chères. Alors, en plus, il y a une particularité avec cette mission, c'est qu'il y a des programmes spécifiques qui sont les programmes appelés Early Release Science. C'est des programmes qui vont être exécutés au tout début de la mission. Il y en a une dizaine qui ont été sélectionnés et ils ont une autre particularité, c'est que les données vont être rendues publiques immédiatement. C'est-à-dire que dès que les observations vont être faites, eh bien, les données seront disponibles à la communauté internationale. Ça, c'est quelque chose qui est assez original. Et donc, pour être parmi les premiers à observer dans ces programmes Early Release Science, là, il y avait une compétition très forte. Donc, nous, avec les collègues en France, notamment Émilie Abar, qui est à l'Institut d'Astrophysique Spatiale, on a créé un projet, hein, donc qui fait partie des 10 qui ont été acceptés pour ces observations en tout début de mission et dont les données seront disponibles pour tout le monde.
Nicole Nesbadda, dites-nous, expliquez-nous, pour nous qui sommes néophytes, en quoi justement ce télescope est révolutionnaire dans l'histoire de l'astronomie aujourd'hui et par rapport à tous ceux qui l'ont précédé.
Oui, je crois avec ce télescope en particulier, le problème c'est qu'il y aura tout un nombre de révolutions qui vont se passer, donc on sera très gâté. Par rapport à d'autres missions, il y a une grande question qui sera abordée et rien d'autre. Donc dans ce cas-là, dans ma domaine en particulier, ce qui est donc l'astrophysique extragalactique, c'est tout ce qui se passe en dehors de la Voie lactée, si vous voulez. Il y a quelques grands défis qu'on n'a pas encore pu adresser. Donc c'est surtout l'origine des galaxies. Donc qu'est-ce qui se passait dans le tout jeune univers, dans les premières centaines de millions d'années après le Big Bang, les toutes premières galaxies qui ont aussi changé à jamais le visage de l'univers en gros. Et quel était le rôle des trous noirs supermassifs qui se trouvent dans le centre de chaque galaxie, dans cette évolution et dans l'évolution des galaxies après? Donc ces trous noirs, on entend souvent parler des trous noirs dans les films de science-fiction. Et, voilà. Mais les nôtres, ils sont encore plus spéciales que ça parce que les trous noirs normaux, entre guillemets, ce sont des objets qui se forment lors de la mort d'une étoile. Une étoile explose et il y a l'intérieur de l'étoile qui s'effondre et qui forme une région très très dense dans l'univers. Dans notre cas, c'est pas juste une étoile, mais ces objets-là, ils réunissent la masse entière d'une petite galaxie eux-mêmes qui se trouve donc dans les cœurs des galaxies plus grands. Et donc ça peut être un milliard fois la masse du Soleil, par exemple.
Donc c'est des gros monstres. Hein.
Des gros monstres, mais dans une région toute petite, pour nous astronomes au moins, parce que ça peut facilement rentrer dans l'intérieur du système solaire. Donc ce sont des objets absolument exotiques qui ont un grand impact, quand même, malgré leur petite taille, sur l'évolution de la galaxie en gros, parce qu'ils peuvent régler combien d'étoiles se forment dans ces galaxies-là. Et ça, ce sont des processus pas juste très exotiques, mais aussi assez mal comprises. Et le JWST, pour tout un nombre de raisons, va nous permettre de finalement comprendre comment ça se passe. On espère de comprendre comment les premiers trous noirs se sont formés, comment les galaxies se sont formées autour, tout au début, et après comment cette coexistence s'est passée pendant le reste de l'univers.
Et ça, 5 ans, ça sera suffisant pour essayer de comprendre cette grande question?
On a triché, on a déjà commencé en fait. Donc, ce sont des questions sur lesquelles on travaille depuis 20 ans. Mais il y a des questions clés qui sont ouvertes jusqu'à aujourd'hui et qu'on ne pourra pas aborder autrement. Donc, dans notre cas, le projet qui m'est particulièrement proche au cœur, on va vraiment rentrer au détail de cette coexistence entre le trou noir et la formation d'étoiles. Et on va regarder comment le trou noir, qui émet beaucoup d'énergie dans certaines phases de sa vie, comment cette énergie peut être distribuée dans les gaz de la galaxie autour, ce qui peut le rendre impossible pour les gaz de s'effondrer sous sa propre masse, sous son propre poids. et former des étoiles.
Est-ce que Nicole Nesbadba, on pourrait avoir de nouvelles images de trous noirs, parce qu'on se souvient de la toute première en avril 2019, donc c'est très récent, M87 étoiles, mais est-ce qu'on pourra en avoir de nouvelles avec James Webb?
On va avoir des images, mais il sera un peu différent, je crois, parce que on aura donc on verra des objets qui sont très très distants. Donc ça va être quelque chose de très spécial, mais je ne crois pas qu'ils vont être aussi directs que les images qu'on a pu voir donc avec le grand radiotélescope il y a un an et demi.
Puisque votre passion, ce sont les trous noirs supermassifs, j'aimerais bien qu'on écoute l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet qui avait simulé dès 1979 d'ailleurs une image de trou noir. Cette image avait fait beaucoup parler déjà à l'époque, beaucoup de retentissement, mais là on l'écoute en 2005 évoquer donc ces trous noirs chéris.
Le trou noir représente une sorte d'archétype, un peu vieux comme le monde, mais aussi d'archétype philosophique, je sais pas, le vide énergétique, ça peut évoquer aussi certaines cosmogonies, enfin le vide qui est à la fois vide et plein, générateur, parce que dans nos théories de la physique, le trou noir c'est à la fois un peu le lieu où va disparaître la matière, mais ça pourrait être aussi des lieux de régénération de la matière. Il y a des théories, par exemple, qui disent qu'au fond des trous noirs se développent des bébés univers, c'est-à-dire d'autres univers qui vont se déployer dans de nouvelles dimensions, un petit peu comme si on avait un univers autoreproducteur. Le trou noir cristallise, à la fois sur le plan scientifique, mais sur le plan également poétique et philosophique, cristallise beaucoup d'idées que l'on peut se faire sur la dualité entre le vide et le plein, entre l'ombre et la lumière, l'obscurité et la clarté.
Nicole Nesbadba, est-ce que vous pourriez nous dénicher des bébés univers en allant avec James Webb scruter les trous noirs supermassifs?
Je suis désolée.
Vous avez déjà la réponse, c'est ça?
J'aimerais bien. Ah là non, là. Même pas la réponse. Non, ce qu'on va regarder, c'est vraiment la coexistence du trou noir et son effet sur la galaxie qui est autour et leurs origines. Hein, on ne sait pas d'où ils viennent, on n'a aucune idée comment ils se sont formés. Mm-hmm. Bon, les théoriciens ont beaucoup d'idées, mais on ne sait pas laquelle est correcte. Et c'est pour ça que cet observatoire est très important. Si vous voulez regarder vraiment les détails très précis du trou noir, là il faut observer avec d'autres instruments. On les a aussi, soit dans le radio, soit même avec le Very Large Telescope de l'ESO. Mais en tout cas, on fait ça depuis le sol d'ailleurs. Mm-hmm. On ne va pas dans l'espace.
Eh bien, nous reviendrons sur ce télescope James Webb qui va donc décoller le 22 décembre. Donc c'est la semaine prochaine, Olivier Bernet. Et puis on expliquera aussi qu'il va nous permettre d'observer l'univers, mais à toutes les échelles. Et puis aussi à des échelles beaucoup plus proches avec notre propre système solaire. Il y a des questions pour vous qui arrivent sur franceinter.fr. On vous les transmet dans un instant.
France Inter. La Terre au carré.
14h32 quasiment, Camille Passauvert, Camille Cronier.
Et je vous présente Guillermo Fernandez, habitant de la Gruyère, oui, la Gruyère, la région suisse d'où vient le fromage à la base. 47 ans, marié, 3 enfants, chef de projet en informatique, passionné de lecture scientifique et désormais 38 jours de grève de la faim à ajouter à sa bio. Guillermo Fernandez a brisé son jeûne avec une banane jeudi dernier au 39e jour après avoir obtenu gain de cause. Mais avant de vous dire la fin de l'histoire, je commence par le début, c'était l'été dernier.
Ce qui a changé brutalement dans ma vie, c'est que le 9 août, c'était l'anniversaire de ma fille cadette. Et ce jour-là, je vois apparaître dans mon fil d'information la publication du dernier rapport du GIEC, complètement traumatique. C'est-à-dire que j'ai, la première fois de ma vie, ce que je savais en termes de chiffres et de courbes coagulait en un sentiment de désespoir sans fond qui, à proprement parler, brisait mon âme. Et en tant que père, je suis vraiment rentré dans une démarche dans laquelle il est intolérable que je confie ma fille et mes enfants en général à un avenir aussi désastreux et désespérant.
Guillermo Fernandez décide donc de quitter son travail et de cesser de s'alimenter à partir du 1er novembre.
J'ai fait le catalogue des actions disponibles à un homme comme moi qui n'a jamais été ni militant ni impliqué politiquement et qui avait une chance non nulle de succès, parce que la dernière chose que je voulais, c'était me donner bonne conscience. Je voulais réellement faire quelque chose qui avait une chance de bouger un petit peu les lignes. La grève de la faim est naturellement venue à moi parce que je savais qu'une démarche aussi extrême choquerait.
Voici donc ce père sans histoire, normal, dit-il, posté avec du thé citronné salé devant le palais fédéral à Berne, siège du pouvoir helvétique, assis toute la journée dans le froid, entre moins 2 et 3 degrés, avec une revendication, que les parlementaires soient formés aux questions climatiques et surtout aux enjeux majeurs qui y sont liés, parce qu'il y a un peu de boulot d'après lui.
Non seulement je pense qu'ils ne sont pas au courant, mais pour avoir, depuis que j'étais sur ma place, eu l'opportunité de discuter avec plusieurs, voire beaucoup, il y en a beaucoup qui sont dans la négation, donc ceux-là sont perdus de toute façon pour la société. Il y en a beaucoup qui ont une connaissance très imparfaite de la situation, c'est-à-dire qu'ils ne mesurent pas la rapidité et la dangerosité de ce qui vient.
Pendant que d'autres mieux renseignés ont appuyé la démarche du Suisse avec aussi 27 scientifiques dont Jacques Dubochet, prix Nobel de chimie en 2017. Et ça a payé puisque donc, dénouement au 39e jour, une date a été annoncée pour que les membres suisses du GIEC viennent rencontrer tous les parlementaires. Ce sera le 2 mai avec un petit bonus.
On pourra identifier nommément les parlementaires qui refusent de savoir et les parlementaires qui sont donc au courant et qui n'agissent peut-être pas forcément conformément à la réalité des faits telle que connue.
Guillermo Fernandez a donc arrêté sa grève de la faim, mais il a eu chaud en voyant notamment que la responsable fédérale de l'environnement, c'est un peu la ministre de l'Environnement suisse, n'y était pas très sensible.
À un moment donné, quand je me suis rendu compte que Mme Sommaruga allait me laisser sécher comme une figue, je pensais que j'allais y rester, sincèrement.
Oui, parce que maintenant que c'est terminé, ça paraît facile à dire, mais le papa suisse comptait bien aller jusqu'au bout s'il le fallait.
Une grève de la faim qui n'est pas déterminée jusqu'à la mort, c'est simplement un exercice de patience pour l'adversaire. Il n'a qu'à attendre que j'abandonne.
Prêt à mourir donc, et l'avenir de ses enfants, dans ce cas-là, il ne le voyait pas plein de désespoir aussi, non ?
Ah bah Claire, on en a même discuté, rassurez-vous. Je ne me lance pas dans des aventures comme ça sans avoir le soutien et la compréhension de mon épouse et de mes enfants. Et la première réaction aura été de ma fille cadette, d'ailleurs. Elle me l'a dit très clairement. Je suis fière de toi, les autres parlent et ne font rien. Toi, tu fais quelque chose.
Et Guillermo Fernandez ne compte pas s'arrêter là. La politique, très peu pour lui. Mais des actions pour transmettre, mais aussi faire pression, sont prévues. Avec un objectif plus large désormais.
D'amener les adultes à prendre leurs responsabilités. Parce que je suis toujours choqué d'entendre des gens de mon âge s'ébahir devant le courage des jeunes qui vont sauver le monde, alors que c'est clairement de notre responsabilité, puisque nous avons toutes les commandes du monde actuel, et pas les enfants. Donc prioritairement, c'est d'arriver à faire sortir ma génération de sa torpeur de consommateur pour devenir les acteurs concrets du monde qu'on veut léguer à nos enfants.
Mais il ne recommande pas pour autant à tout le monde de faire une grève de la faim. D'ailleurs, il espère que son corps, avec 20 kilos en moins qu'il ne mange qu'aujourd'hui, que du riz, des pommes de terre, du bouillon ou de la soupe, sera un peu remis la semaine prochaine pour pouvoir manger un peu de fromage à Noël.
Voilà, et on retient son nom, donc Guillermo Fernandez. Ça s'est passé en Suisse donc ces derniers jours. Et c'était Camille Passauvert à réécouter sur la page de La Terre au Carré.
Et on a une question de Claude-Olivier Bernet qui nous écrit, par rapport à ce qu'on vient d'entendre d'ailleurs avec Guillermo Fernandez, les astrophysiciens continuent de regarder ailleurs alors que notre maison brûle. Il nous dit, Claude, c'est lamentable de voir ces milliards dépensés dans des projets inutiles alors que le réchauffement climatique est déjà notre problème majeur et auquel nous ne survivrons pas. Qu'est-ce que vous répondez ?
Oui, c'est une bonne question. Ce que je peux dire à Claude, c'est que déjà les astrophysiciens regardent aussi leur propre planète. Et ils sont aujourd'hui, c'est une communauté qui est très mobilisée sur la question de l'empreinte carbone des instruments scientifiques, des télescopes, de la recherche. Il y a eu une issue spéciale, une revue de la revue Nature Astronomie qui a été consacrée à l'empreinte carbone de l'astronomie. Donc c'est aussi quelque chose que l'on regarde. Ensuite, sur la question de l'utilité, dire qu'une mission comme James Webb est inutile, c'est une question de point de vue, mais moi j'aurais tendance à dire que contempler l'univers, c'est pas quelque chose qui est inutile. Participer à la création de connaissances, à observer des choses qui sont belles, continuer à voir le beau dans le monde, c'est aussi quelque chose qui est très important, y compris si on veut préserver notre propre planète. Et il y a un message souvent mis en avant par la communauté astrophysique qui est « There is no planet B », il n'y a pas de planète B. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est rendu possible par cette abstraction, le fait qu'on soit capable de prendre du recul par rapport à notre planète, par rapport à la Terre, l'observer d'une certaine manière de l'extérieur en regardant d'autres planètes qui gravitent autour d'autres étoiles. Tout ça est une contribution, je pense, à l'humanité qui est importante aussi pour voilà, essayer de sortir de l'ornière en ce qui concerne l'impasse dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et j'insiste sur le fait que la communauté scientifique, notamment via le collectif Labo 1.5 qui a été fondé il y a quelques années, contribue à réfléchir à ces questions d'empreinte, y compris de la recherche et à sa réduction.
Et Nicole Nesvedba, sur le budget, sur l'argent qui est consacré à toute cette, tous ces projets et toute cette recherche, et là, en l'occurrence, le plus cher depuis Apollo, vous le disiez tout à l'heure, Olivier Bernet, qu'est-ce qu'on répond à ça? Parce que cet argent pourrait peut-être, d'après certains auditeurs, être mis ailleurs.
Oui, effectivement, 10 milliards d'euros, c'est beaucoup de dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais il faut voir ça dans le contexte, parce que en Europe, on a environ 300, 350 000 habitants. Aux États-Unis, c'est le même chiffre. Donc, ça fait 700 millions de contribuables qui ont donc payé ces 10 milliards de dollars. Et si vous faites le calcul, vous arrivez avec environ, je crois, 14 euros par personne. Et cet argent a été dépensé sur 20 ans. Donc par année, vous payez environ 70 centimes.
Oui, par mais pardon, la question c'est pas le coût par personne. La question c'est cette enveloppe-là ne devrait pas être affectée à l'urgence climatique. En l'occurrence, si je poursuis le message de Claude, mais on en a d'autres de messages d'auditeurs sur franceinter.fr.
Oui, mais réfléchissez à ce qu'on pourrait faire, aux sommes qu'on pourrait trouver si on faisait vraiment un sacrifice. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces 10 milliards d'euros, pour chacun d'entre nous, c'est un tout petit effort qui nous permet, pour aller tous ensemble, pour vraiment regarder à l'autre bout de l'univers. Ouais. Et je trouve que ça devrait être pris comme un message très positif pour nous tous, pour mieux nous investir dans notre futur sur notre planète, je suis entièrement d'accord, mais avec un investissement qui peut tout à fait se faire juste à côté et qui peut être beaucoup plus élevé si on prend ces problèmes vraiment, vraiment au sérieux. Et ça concerne chacun d'entre nous.
Olivier Bernet, vous êtes très actif sur le Labo 1.5, justement sur cette question de l'empreinte carbone des chercheurs, puisque vous êtes à l'origine de ce labo. Donc c'est dire que l'astrophysique vous passionne, mais la question climatique aussi. Donc finalement, pour vous, les deux sont pas incompatibles, j'imagine.
Non, moi je dirais qu'il faut faire les deux. C'est-à-dire, il faut essayer de réfléchir à comment on veut réduire l'empreinte carbone de la recherche et puis l'empreinte carbone de nos activités en général, et continuer à créer du beau dans le monde, puisque c'est probablement pour ça qu'on est là. Donc moi, je crois que c'est très important de continuer à faire les deux et de pas les opposer. Et par ailleurs, il y a probablement beaucoup d'autres endroits où on peut faire des réductions. Le tourisme spatial, peut-être, n'est pas la priorité, ou en tout cas moins une priorité qu'un certain nombre de choses.
Mais en un mot, Émilie nous demande si ce projet James Webb peut être considéré d'une façon ou d'une autre comme un projet écolo.
D'une certaine manière, alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais oui, c'est-à-dire que la dimension, je dirais, mystique que ça apporte par le fait que ça permet de se poser la question de nos origines, de la cosmogonie, c'est quelque chose qui est lié donc à la compréhension qu'on veut avoir de la nature dans son sens large. Et donc oui, c'est l'univers,
c'est
la
l'écologie
nature.
Vraiment à la dimension
à l'échelle
du cosmos,
l'univers,
ça,
si vous voulez.
Mais de façon très matérielle, on va dire, c'est pas écolo du tout. On peut le dire comme ça. Quand
de
même.
Façon mais... très matérielle, non, c'est sûr que l'empreinte carbone des missions spatiales, c'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de mesurer, notamment des collègues à Toulouse qui ont lancé ces calculs. Et donc c'est quelque chose qui est très compliqué à faire, mais on peut l'estimer, on sait combien ça fait, on sait aussi comment on peut essayer de réduire tout ça. Donc c'est quelque chose qui a une empreinte carbone.
Nicole Nesvedba, je vous entends réagir très vite, s'il vous plaît. Ouais.
Voilà, j'ai des collègues un peu plus âgés qui m'ont raconté plus d'une fois d'ailleurs que pour eux, un des moments clés de voir la fragilité de notre Terre, c'était au moment où eux, ils ont vu les images de la Terre prises depuis la Lune.
C'est ce qu'a dit Jeff Bezos aussi.
Ça s'appelle Earthrise. Et ce que c'était vraiment des images emblématiques à l'époque pour beaucoup de gens qui ensuite ont commencé de s'engager pour le climat, pour montrer quelle est la valeur et mais aussi la fragilité de notre Terre dans l'univers. Nous sommes tous faits, comme on dit parfois, de la poussière des étoiles. Donc, on fait partie de l'univers et je crois de voir quelque chose, de s'occuper avec quelque chose qui nous mène au-delà de notre quotidien dans le monde humain. L'astronomie, c'est presque la seule occasion qui nous reste aujourd'hui de vraiment passer au-delà.
Tiens, on va demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent sur le répondeur de la Terre au carré, comme ça on pourra diffuser vos messages demain.
01 56 40 45 45.
Voilà, si vous pensez qu'on doit ou pas envoyer des télescopes spatiaux comme ça pour 10 milliards de dollars, ou est-ce qu'on doit tout concentrer sur l'écologie par exemple. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de James Webb. Vertige, c'était Malik Djoudi.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard, sur France Inter.
On va observer les étoiles dans leur propre galaxie avec leurs planètes tournant autour. Nous savons que nous allons faire de grandes découvertes.
Un décollage parfait, comme sur cette simulation. L'espoir nourri par 10 000 ingénieurs et scientifiques de la NASA, de l'Agence spatiale européenne et d'Ariane Espace. Pour qui l'aventure du télescope James Webb est l'aboutissement de presque 25 ans de travail.
Voilà, toujours extrait de cette vidéo d'Arte sur le télescope James Webb, donc qui va décoller mercredi prochain depuis Kourou. Olivier Bernet et Nicole Nesvadba sont nos invités, ils sont tous les deux astrophysiciens. Olivier Bernet, vous allez vous intéresser en particulier à un coin de l'univers qui plaît beaucoup aux astronomes amateurs et qu'on peut observer d'ailleurs en ce moment.
Oui, c'est la nébuleuse d'Orion, ouais. Qu'on peut voir quand on regarde en direction du sud-est, hein, depuis un endroit où le ciel est clair, dans lequel il n'y a pas trop de pollution lumineuse. À Paris, c'est un peu difficile, mais donc c'est une nébuleuse qui se trouve donc dans cette constellation d'Orion.
Pourquoi elle fascine autant cette nébuleuse d'ailleurs ?
Elle fascine beaucoup parce qu'elle est belle déjà,
ouais.
Ça c'est important de le dire. On a la chance d'observer des régions qui sont très belles et donc les premières images qu'on va faire avec James Webb de cette nébuleuse vont probablement être spectaculaires,
mais
en tout cas on l'espère. Oui.
Pardon, elle est belle comment ? C'est quoi ?
Elle est belle parce que elle est elle est majestueuse. C'est vraiment comme des espèces de dentelles cosmiques multicolores. C'est un environnement qui est très, on dirait un tableau si vous voulez, d'impressionniste. C'est très artistique. C'est la nature qui nous offre ce tableau et donc c'est important de le contempler, je trouve.
Et c'est une pouponnière d'étoiles.
C'est une pouponnière Orion. Hein. D'étoiles, voilà. Alors, comme disait Nicole tout à l'heure, on va pas pouvoir observer de bébés univers, mais on va pouvoir observer des bébés étoiles et des bébés planètes qui sont en train de se former dans cette pouponnière d'étoiles qui est la nébuleuse d'Orion et qui va être la cible de nos observations.
Et qu'est-ce qu'on va pouvoir observer du système solaire? Et puis après, on passera à la question des auditeurs. Alors, parce que c'est toutes les échelles, hein, James Webb. Hein.
Oui, alors on va pouvoir observer toutes les planètes du système solaire. Il y a un programme qui est coordonné d'ailleurs par un collègue français à l'Observatoire de Paris, Thierry Fouché, sur Jupiter. Donc on va faire des observations de Jupiter très tôt dans la mission. Et puis on va pouvoir observer ce qu'on appelle les objets transneptuniens, c'est-à-dire des objets un peu mystérieux qui se trouvent au-delà de l'orbite de Neptune, qui sont des planètes naines, qui sont des restes du disque dans lequel se sont formées les planètes au début du système solaire. Ça va aussi permettre de remonter dans l'histoire du système solaire. Voilà, donc il y a toujours hein, dans James Webb, je le disais tout à l'heure, mais cette question de nos origines et de l'origine de la vie aussi hein, qui est très présente et qu'on va essayer de regarder à toutes les échelles dans le système solaire, à l'échelle de notre galaxie, par exemple dans Orion, et puis à l'échelle de l'univers, c'est-à-dire qu'on va aussi aller essayer de regarder les premières étoiles qui sont nées dans l'univers, il y a probablement autour de 13 milliards d'années, on va essayer d'aller capter leur lumière. Après le Big Bang, il y a eu une phase dans laquelle il n'y avait pas d'étoiles, on appelle ça les âges sombres, il n'y avait pas de lumière, et à un moment, les premières lumières se sont allumées, les premières étoiles sont nées, on va essayer d'aller capter cette lumière.
Mais alors qui va regarder tout ça? Parce que c'est H24 pendant 5 ans, Nicole Nesvadba, j'imagine qu'il faut des moyens titanesques, ou alors il y a peut-être le risque de passer à côté de quelque chose, parce que je ne sais pas combien de temps il va falloir pour regarder toutes ces images, toutes ces données.
Il n'y a pas tant de données en fait. Donc il y a toujours plus d'astronomes que de données à voir. Et donc on a des étudiants, on a des postdocs qui sont déjà en place, qui attendent avec impatience avoir ces données là et d'apprendre plein de nouveaux choses sur l'univers.
Vous m'étonnez beaucoup en disant ça, qu'il n'y a pas beaucoup de données. Moi je m'attendais justement à ce que vous ayez des milliards de données à trier, Nicole Nesvadba.
Ah, on aura certainement assez de questions à poser pour lancer 5 James Webb, là je vous assure.
Ouais, bon ok, il y a des questions pour vous. Hein,
oui, Camille. Alors Olivier, vous réagissez à ce qu'on disait tout à l'heure sur le coût par rapport de la mission par rapport à l'urgence climatique sur Terre. Il nous dit qu'il est maraîcher bio et qu'il trouve essentiel la recherche spatiale. Je bondis, nous écrit-il, quand j'entends des messages disant tout cet argent pourrait être utilisé ailleurs. Il ne faut pas jeter la pierre à la recherche. Donc ça, au moins, c'est dit par Olivier. Et puis,
ça fait plaisir quand même, non, Olivier Vernet?
Oui, ça fait plaisir. Un homonyme qui me soutient.
Et c'est pas votre cousin.
Et il y a d'autres questions. Emmanuel nous demande ce que devient le télescope après 5 ans dans l'espace. Et Rose ajoute, est-ce qu'il est possible, par exemple, de récupérer des vieux télescopes pour les recycler et donc éviter la pollution spatiale? Olivier Vernet.
Oui, alors c'est quelque chose qu'on essaye de faire au maximum, surtout en ce qui concerne les orbites basses, c'est-à-dire les missions qui sont en orbite à quelques centaines de kilomètres au-dessus de la Terre, qui sont assez polluantes, déjà parce que ça crée de la pollution lumineuse. On parle en ce moment beaucoup de Starlink, qui génère une pollution importante dans le ciel. D'ailleurs, je crois que vous aviez consacré une émission...
Les satellites d'Elon Musk.
C'est grappe de satellites. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est problématique. Et donc, alors sur les orbites basses, en général, on essaye de prévoir des moyens de désorbiter en fin de mission pour que ces satellites rentrent dans l'atmosphère et soient brûlés dans l'atmosphère et ne restent pas comme débris. En ce qui concerne James Webb, on va à un endroit qui est beaucoup plus reculé dans le système solaire, qui est très loin de la Terre. Et donc, à la fin de sa mission, le télescope restera là-bas et reposera en paix, je dirais, autour de ce point de Lagrange où il n'y a...
Dans son cimetière de solitude, hein, parce qu'il n'y aura pas grand monde.
Il n'y a pas grand monde. Il y a quelques autres missions qui sont là-bas, qui pourra rejoindre, mais ils sont peu nombreux. Et voilà, il n'y aura pas de risque de collision avec d'autres missions ou de création de débris.
Il y a un autre télescope très connu du grand public, c'est Hubble, parce que son nom vraiment a marqué les esprits, parce que Hubble justement a livré des images qu'on n'avait jamais eues et d'une très très grande qualité, mais là apparemment James Webb va tout dépasser. Retour quand même sur Hubble, parce qu'il faut lui rendre hommage, parce que mine de rien, pépère, il marche toujours 30 ans après son lancement.
Après un quart de siècle de présence dans l'espace, Hubble incarne plus que jamais la soif d'exploration de l'humanité. Le télescope, qui doit son nom à l'astrophysicien américain Edwin Hubble, est le plus grand observatoire spatial. Il est plus imposant qu'un autobus. Et pourtant, il ne consomme pas plus d'électricité qu'un sèche-linge. Avant Hubble, les photos comme celle-ci n'existaient tout simplement pas.
Un télescope spatial, ça faisait très envie. Quelle merveille allait-on découvrir ? Il allait nous permettre de voir bien plus loin et de confirmer ou de réfuter nos théories concernant l'univers.
Vous avez reconnu cette voix, Olivier Bernet, hein ?
Oui, c'est la voix de Stephen Hawking.
Absolument, extrait d'un document de Nat Geo en 2015. Alors juste un petit comparatif, parce que Hubble a été en soi un télescope totalement révolutionnaire. Mais par exemple, par rapport à James Webb, Hubble est à 500 km de la Terre, alors que James Webb sera à 1,5 million de kilomètres. Et cette échelle-là, ça change tout pour les observations ?
Oui, c'est une échelle qui permet au télescope spatial James Webb de rester au frais, d'une certaine manière. C'est-à-dire que grâce à ces écrans thermiques et à cet endroit-là dans le système solaire, à ce fameux point de Lagrange, il déploie ces écrans qui le protègent du soleil. Et donc, il peut refroidir à des températures très basses, de l'ordre de moins de 130 degrés Celsius.
Ouais.
Ce refroidissement permet d'observer dans une fenêtre de fréquence qu'on appelle l'infrarouge. Et ça permet de regarder beaucoup plus loin dans l'univers.
Donc de regarder l'invisible, enfin ce qu'on peut pas voir.
De regarder l'invisible, ce qu'on peut pas voir à l'œil nu. Mais en fait, il se trouve que comme l'univers est en expansion, les galaxies qui sont très loin de nous sont rougies par un phénomène de décalage Doppler, de la même manière que le signal sonore d'une ambulance qui s'éloigne de nous et sa fréquence est diminuée. Là, il se passe un petit peu la même chose. Et donc, on reçoit un signal qui est énormément rougi. Donc, si on veut regarder loin, il faut regarder dans l'infrarouge au frais.
Pierre nous demande sur franceinter.fr comment avez-vous fait pour que le matériel ne soit pas obsolète alors que le projet était initié il y a 30 ans, Nicole Nesvadba.
Parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Donc, ce que va faire le James Webb, ça n'a pas pu être fait avant avec d'autres moyens. Et donc, les questions qu'on peut uniquement répondre avec cet observatoire-là, ils sont toujours à jour. Oui.
Mais le matériel en lui-même, il a évolué, j'imagine, en 30 ans.
Ce retard qu'on a pris, c'est bien sûr, ça fait mal parce qu'on aurait bien voulu avoir les données déjà depuis plusieurs années. Mais ça ne va pas venir trop tard parce que ça ne peut jamais venir plus trop tard. On a plutôt raffiné les questions scientifiques qu'on veut maintenant répondre avec cet observatoire. Et donc, ça vient toujours au bon moment.
La question de Pierre, c'était sur le matériel, Olivier Bernet. Le matériel évolue, j'imagine, à vitesse grand V. Alors, comment vous faites pour être au top de la technologie alors qu'effectivement, ça a commencé il y a longtemps ?
Alors, il y a un décalage temporel. C'est-à-dire que le matériel qu'il y a dans les derniers iPhones est évidemment en avance d'une certaine manière sur ce qu'on envoie dans l'espace. Mais il faut bien comprendre que là, on envoie un seul instrument et donc il faut qu'il marche parfaitement et donc il faut qu'on puisse tester tout, absolument, que toute la technologie qu'on met à bord soit testée, retestée, que tous les instruments, l'optique, tout ça soit vraiment extrêmement fidèle, on soit certain que ça va fonctionner.
Donc le matériel, il date de quand, en gros ? Il a été fait à quel moment ?
Les instruments, ils ont fini d'être fabriqués il y a plusieurs années. Hein, donc c'est de la technologie qui date des années 2000 à peu près. Donc de ce point de vue-là, il y a un décalage. Mais c'est quand même, comme le disait Nicole, ce qu'on a fait de mieux jusqu'à présent dans l'espace. Et surtout, j'insiste, c'est qualifié pour le spatial, c'est-à-dire qu'on sait que ça va marcher. C'est pas, si vous envoyez un iPhone dans l'espace aujourd'hui, vous savez pas combien de temps il va rester. Là, ça va durer pendant très longtemps, et c'est important parce que James Webb, on l'envoie, comme on l'a dit, au point de Lagrange, donc on pourra pas aller le réparer. Hubble, au début de sa mission,
500 km, oui, c'est ça.
On a pu aller en navette spatiale avec une boîte à outils pour le réparer parce qu'il était myope. Là, James Webb, là où il sera, on
impossible.
Pourra pas aller le réparer.
Nicole Nesvadba, il nous reste très peu de temps. J'aimerais savoir, vous, avec James Webb, à quelle question vous aimeriez avoir une réponse si vraiment on exauçait vos rêves d'astrophysicienne ?
Bon, je crois que la question principale qui nous intéresse tous, c'est comment se sont... quelles étaient les premières générations des galaxies et comment se sont formés les trous noirs supermassifs dedans ?
Je crois
que ça, c'est vraiment une très grande question que JWST va uniquement répondre.
Et vous, Olivier Bernet ?
Alors, moi, je dirais peut-être ce qui m'intéresse du point de vue scientifique, hein, c'est lié à la question des origines, en particulier de l'origine de la vie. Et donc la question, c'est à quel niveau de complexité chimique on est capable d'aller dans l'univers et à quel endroit. Je me dis qu'on aura.
On pourrait découvrir des traces de vie avec James Webb.
Des traces de vie, je pense pas. Je pense qu'il va falloir attendre l'émission suivante. Mais la compréhension des étapes qui mènent à la vie, il y en a tout un tas, et je pense qu'on va en comprendre des nouvelles. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne.
Allez, un dernier message message pour terminer. Manu nous écrit « La connaissance n'est pas l'ennemi de l'environnement. Comprendre notre univers, c'est aussi comprendre notre planète et agir correctement. Cette opposition n'a aucun sens. »
Ça, c'est une belle conclusion.
Très belle. C'est
franchement,
pour ça que je
la garde
pour la fin.
Je la garde aussi.
On la garde au frais, comme James Webb, pour pouvoir justement préparer ce décollage et votre cœur qui bat, j'imagine, très fort, Olivier Bernet et Nicole Nesvadba. Donc, ce sera mercredi à quelle heure,
Alors, française. 13h20, heure française.
13h20, mercredi, en espérant que la météo à Kourou, en Guyane, soit propice justement à l'envol de James Webb pour les futures découvertes qui seront certainement annoncées dans les années qui viennent. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aux équipes de France Bleu Azur qui nous ont permis le duplex cet après-midi.